Saddam Hussein devrait, en principe, être jugé dans quelques jours, et on en saura un peu plus sur la totalité des crimes dont il est accusé. Mais le dictateur aura-t-il droit à un procès impartial, et n'aurait-il pas été préférable qu'il comparaisse devant un tribunal international, comme Milosevic par exemple? Et surtout, les magistrats réussiront-ils à démêler l'écheveau de complicité dont Saddam Hussein a bénéficié? Je veux ici parler des États et des grandes sociétés qui ont armé l'Irak et contribué à faire de ce pays un vaste camp de concentration où les forces de répression ont tué ou fait disparaître des centaines de milliers de personnes. Terrible bilan que recense un ouvrage collectif récent, le Livre noir de Saddam Hussein, préfacé par Bernard Kouchner. L'ancien ministre et cofondateur de Médecins sans frontières écrit en particulier, je le cite, « La première arme de destruction massive, ce fut Saddam Hussein. Pendant 35 ans, il s'acharna sur son propre peuple. On compte près de 500 000 disparus, kurdes, femmes et enfants pour la majorité d'entre eux. Plus de 4 500 villages ont été rasés. Les fosses communes sont innombrables. 4 millions d'exilés cherchent encore, en 2005, à regagner ce qui reste de leur foyer. On estime à 1,5 million les handicapés des guerres successives et des nombreux attentats, et à des centaines de milliers les chiites assassinés. » Oui, terrible bilan dont devra répondre Saddam Hussein devant ses juges irakiens. Et parmi tous ces crimes, l'utilisation de l'arme chimique, non seulement contre l'ennemi iranien, mais aussi contre son propre peuple. Cependant, encore une fois, les premiers responsables ne sont-ils pas ceux qui ont aidé Saddam Hussein à construire ce vaste arsenal? Toutefois, il y a peu de chances que le prochain procès fasse la lumière sur ce point. Monsieur X, lui, essaie d'y voir plus clair.
Une précision d'abord. En abordant cette monstrueuse question des armes de destruction massive, je ne veux nullement justifier l'intervention états-unienne en Irak qui a été fondée sur un mensonge, tout le monde le sait. Alors qu'il y avait tant d'autres bonnes raisons de vouloir se débarrasser de Saddam Hussein. Mais si vous le voulez bien, j'y reviendrai dans un prochain entretien.
Mais c'est entendu.
On a souvent dit que les armes chimiques et bactériologiques étaient la bombe atomique du pauvre. Et c'est si vrai que Saddam Hussein a pensé à se doter massivement de ses armes après la destruction par Israël des installations nucléaires irakiennes.
Le réacteur Osirak, c'est
ça ? Une centrale construite en partenariat avec la France, grâce aux excellents rapports noués en 1975 entre le Premier ministre Jacques Chirac et Saddam Hussein. Si vous voulez mon avis, François Mitterrand, qui a appris le bombardement israélien peu après son élection à la présidence de la République, n'a pas dû être fâché.
Parce que si un jour l'Irak arrivait à construire la bombe, ce serait sans la France.
Eh oui, et qu'on pourrait donc s'en laver les mains.
Bon.
Toutefois, ça n'a pas empêché notre pays de continuer à fournir à Bagdad des quantités impressionnantes d'armes conventionnelles.
Oui, bien. En même temps que l'URSS. Hein.
C'est exact. Donc, après ce bombardement de l'Irak, Saddam Hussein sait qu'il se passera bien des années avant de pouvoir se doter un jour de l'arme atomique.
Oui, c'est pour ça qu'il se tourne vers la fabrication d'autres armes.
Chimiques et bactériologiques, oui. Des armes qui sont par ailleurs bien moins coûteuses et dont la fabrication peut être dissimulée dans des usines censées produire des insecticides, des pesticides ou des engrais. Un subterfuge qui ne pourra pas faire longtemps illusion en Irak. Car si ces installations sont vraiment destinées à produire pour l'agriculture, pourquoi les enfouir dans des bunkers souterrains et les faire protéger par des batteries de missiles,
ouais, afin de faire échec à d'éventuels bombardements. Oui.
Bon, j'ajoute que ces usines vont être construites au milieu d'immenses zones interdites et militarisées.
Toute discrétion, donc.
Oui, oui, car les conventions internationales signées après la guerre de 14-18 à Genève interdisent l'utilisation des gaz. Malgré tout, le fait que l'Irak se lance dans la production d'armes chimiques devient vite un secret de polichinelle. Ça n'empêche nullement les grandes puissances de continuer à livrer à Saddam Hussein des armes conventionnelles et à passer d'importants accords commerciaux.
Oui, mais c'est à cause de la guerre Iran-Irak.
Hein. Bien sûr. Saddam Hussein, qui a pris l'initiative de lancer son armée contre l'Iran, apparaît très vite comme étant un rempart contre le régime de l'ayatollah Khamenei. Et avant d'entrer en guerre, Saddam Hussein a même reçu un discret feu vert des États-Unis, ce qui permettra à tout le monde de fermer les yeux.
Mais pourquoi cette attitude des États-Unis là, vis-à-vis d'un pays qui a quand même longtemps flirté avec la soviétique,
hein? Le pétrole, évidemment. Le président Carter l'a dit sans embâche dès 1980. Si un pays et il voulait naturellement parler de l'Iran, ça visait de vouloir s'assurer la maîtrise du golfe Persique. Les États-Unis considéreraient qu'il s'agit d'une attaque contre leurs intérêts vitaux. Comprenez les approvisionnements en pétrole.
Donc, d'emblée, les Américains se rangent du côté irakien.
Sans aucun doute. Il faut d'ailleurs noter que l'Irak, longtemps rangé par Washington dans la liste des pays terroristes, en sort dès 1982 et bénéficie dès lors de garanties financières de plusieurs centaines de millions de dollars pour sa politique agricole.
Et des dollars qui servent peut-être aussi à la production d'armes chimiques.
Ah, pourquoi pas. En tout cas, ça veut dire que pour les États occidentaux, mais aussi pour le camp de l'Est, naturellement, Saddam Hussein est désormais quelqu'un de très fréquentable. Et quand au tout début des années 80, l'armée irakienne, contre toute attente, se trouve en difficulté sur le front, les Occidentaux, États-Unis en tête, viennent au secours de Saddam Hussein.
En équipant son armée ?
Bien entendu. La France, en particulier, va même prêter quelques-uns de ses avions de combat, des super-étendards soustraits à notre aviation militaire. Et les Américains, eux, vont mettre à la disposition des généraux irakiens des photosatellites, des positions de l'armée et des installations pétrolières iraniennes.
Donc ça va très loin.
Et pourtant, personne ne peut ignorer qu'au même moment, Saddam Hussein est en train d'édifier un formidable arsenal d'armes de destruction massive, tant chimiques que bactériologiques. Les Occidentaux peuvent d'autant moins l'ignorer qu'ils fourniront à l'Irak des souches de maladies très contagieuses et mortelles, telles la peste, la maladie du charbon et des toxines du botulisme. Même l'Institut Pasteur a été associé à ces livraisons.
Oh, ça me semble incroyable.
Mais officiellement, il ne s'agissait que d'échanges scientifiques.
Ah, oui, oui. C'est un peu cousu de fil blanc, non ?
On peut le penser, en effet, mais intéressons-nous surtout aux armes chimiques et à leur utilisation. Car vous le savez sans doute, Saddam Hussein n'a pas hésité à en faire usage à plusieurs reprises.
Parlons un mot peut-être sur ces armes terrifiantes, là.
Moi, je ne vais pas vous faire un cours de chimie.
Non.
Mais sachez quand même qu'elles sont classées en plusieurs groupes, en fonction des effets qu'elles produisent. Il y a d'abord ce qu'on appelle les vésicants. Le plus connu d'entre eux est le gaz moutarde.
C'est celui qui a été utilisé pendant la Grande Guerre. Hein.
D'abord à Ypres, oui. Mmh. Et c'est pourquoi on le nomme aussi hyperite. Il provoque sur la peau humaine des brûlures et attaque ensuite les yeux et le système respiratoire.
Et il peut tuer ?
Bah, évidemment. Beaucoup de poilus en sont morts et d'autres qui l'ont respiré ont été handicapés à vie. Autre groupe, les asphyxiants. Ce sont les gaz comme l'acide cyanhydrique qui ont été utilisés par les nazis dans les camps d'extermination. On trouve aussi les suffocants. Des substances souvent à base de chlore qui détruisent les voies respiratoires. Enfin, dernier groupe, les neurotoxiques, proches de certains insecticides. Vous connaissez au moins le nom de l'un d'entre eux, le sarin.
C'est le gaz utilisé dans le métro de Tokyo, hein, par la secte Aum.
C'est ça, oui. Ils attaquent le système nerveux et sont d'autant plus dangereux qu'ils sont inodores. Il y en a un parmi eux qui est appelé le VX, dont une seule et minuscule gouttelette peut tuer un homme. Il faut ajouter que les scientifiques qui ont conçu ces gaz de combat ont aussi songé à fabriquer des cocktails.
C'est-à-dire des mélanges.
Exactement, afin d'accroître l'efficacité de ces armes de mort. Des cocktails qui ont d'ailleurs été testés en grandeur nature par les sbires de Saddam Hussein.
Sur des hommes, vous voulez dire ?
Sur des cobayes, des prisonniers, par exemple. Et on en a la preuve. Quoi qu'il en soit, c'est donc après la destruction du réacteur Sirac que Saddam Hussein a lancé son programme d'armes chimiques. Et l'un de ses généraux, Amer Aoudi al-Saadi, a reçu plein pouvoir et des crédits illimités pour le mettre en œuvre. Une mission qui devait forcément demeurer ultra secrète.
Oui, mais d'autres pays fabriquent ou ont fabriqué aussi des gaz de combat. Hein.
Toutes les grandes puissances et également Israël, bien entendu, sous le prétexte parfaitement hypocrite de chercher des antidotes.
Ah oui, je vois.
Bon, je suis sûr qu'il existe encore de par le monde des stocks qui n'ont pas été détruits, mais à l'exception de l'agent jaune, dont des quantités incroyables ont été déversées au Vietnam par les Américains, aucun pays, à ma connaissance, n'a utilisé militairement des gaz sur un champ de bataille depuis la convention de 1925.
Sauf Saddam Hussein, donc. Et encore faut-il observer, à la décharge des États-Unis, que l'agent jaune n'était pas un gaz de combat, mais un défoliant. Hein.
Peut-être, mais enfin, ce produit à base de dioxine est aussi un produit très dangereux pour l'homme, un terrible poison. Et les Vietnamiens continuent à en payer le prix.
Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'en face, là, lors de la guerre, les Iraniens possédaient eux aussi des armes chimiques ?
Oh, c'est probable. Et peut-être en ont-ils utilisé, franchement, je ne sais pas. En tout cas, il revient à Saddam Hussein d'avoir été une sorte de précurseur dans ce sinistre domaine. Mais revenons à la mission de ce général.
Ce Al-Sadi.
C'est ça, oui. Ouais. Pour réussir, il lui fallait trouver hors d'Irak des chimistes et aussi d'énormes quantités de produits chimiques. Des produits qui permettaient de fabriquer ces gaz mortels et qui, obligatoirement, faisaient l'objet de surveillance là où on les fabriquait. Ouais. Donc après avoir essuyé quelques refus aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Italie, ce général s'est tourné vers le pays qui avait déjà, malheureusement, une certaine expérience dans ce domaine.
Oui, je vois de quel pays vous voulez parler, l'Allemagne, quoi.
Oui, ouais. L'Allemagne de l'Ouest, où il existait quelques patrons nostalgiques du Troisième Reich, qui demandaient pas mieux que de venir en aide à un pays arabe, entreprenant, désireux de fabriquer des gaz susceptibles d'être un jour utilisés contre l'État hébreu.
Le lobby de la mort. Tel est le titre d'un livre du journaliste Kenneth Timmerman, un ancien otage au Liban devenu l'un des meilleurs spécialistes des transferts de technologie dans le monde. Dans cet ouvrage très documenté, publié en 1991, Timmerman explique comment et pourquoi l'Occident a armé l'Irak. Et il met en lumière la coopération d'un certain nombre d'industriels ouest-allemands avec le régime de Saddam Hussein. Je le cite. 40 ans après l'Holocauste, on trouvait encore des partenaires compréhensifs prêts à aider l'Irak à détruire Israël. C'était le cas d'Anton Eyerle, directeur de la société de construction Rhein Bavaria. Pour Eyerle, qui commençait à travailler pour l'Irak à l'âge de 57 ans, Saddam Hussein était un homme fort pour qui cela valait la peine de se battre. Les Irakiens étaient des gens qui avaient du caractère. Dans son bureau de Kaufbeuren, en Bavière, il avait gardé un vieux poste de radio du temps du Troisième Reich qu'il avait modifié pour écouter les enregistrements des discours d'Adolf Hitler comme il les avait entendus dans les années 40. Eyerle avait servi dans la Luftwaffe de Göring. Au cours d'une interview à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel du 4 février 1991, il expliqua son enthousiasme pour le dictateur irakien. C'était comme dans ma jeunesse.
Et ce n'est donc pas un hasard si Al-Sadi commande la construction de la première usine chimique à une société ouest-allemande.
Alors, qui et où ?
La société allemande s'appelle Thyssen-Rheinstahl et l'implantation est prévue à une trentaine de kilomètres au sud de Bagdad. Là où, dès le début des années 70, le régime avait justement prévu de construire une usine de fabrication de pesticides.
Ouais, et puis des pesticides au gaz mortel, il n'y a qu'un pas.
Ah, en effet, ce sont souvent les mêmes composants qui sont utilisés.
Mais est-ce que les Allemands, eux, savent qu'ils vont construire une usine destinée à produire des armes chimiques ?
Je vais y venir. Officiellement, il s'agit de l'édification d'une université et à l'intérieur de cette université, d'un laboratoire chimique.
Camouflage un peu grossier.
Certainement, oui. Le cahier des charges prévoit que dans ces bâtiments, on puisse traiter des substances les plus dangereuses. Et en particulier, les organophosphorés, c'est-à-dire des produits avec lesquels il est possible de générer des neurotoxiques comme le sarin et le tabac.
Mm-hmm. Et les ingénieurs allemands ne se doutent de rien ?
En principe, non. Non, la surveillance étroite dont ils sont l'objet n'éveille même pas leur curiosité. Ni même l'installation sur le site de batteries de missiles sol-air.
Difficile à croire.
Je suis d'accord avec vous, mais la direction de la Thyssen jouera l'innocence jusqu'au bout. Toutefois, les Irakiens ne voulaient pas en rester là et ils décidèrent de la construction d'une autre usine à Samara, près de Tikrit.
Mais ça, c'est le fief de Saddam Hussein et de son clan.
C'est ça, oui. Et il est de nouveau fait appel à une entreprise allemande, la Karl Kolb, dont le principal actionnaire était un certain Klaus Franz. Un homme qui avait nourri autrefois des sympathies certaines pour le régime nazi. Grâce à toute une série de sous-traitants et de sociétés écrans, la Kolb a installé la plus grande usine de production d'armes chimiques au monde. Sur un site de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, étroitement surveillé. Les Allemands ont édifié des bunkers et des silos souterrains qui devaient être capables de résister à un bombardement aérien.
Ils ne pouvaient pas ignorer ce qu'ils faisaient quand même.
Et la vraie question est celle-ci. Que savaient exactement les autorités fédérales ?
Allemandes, vous voulez dire.
Oui, bien sûr. Car la construction d'un aussi vaste complexe et la participation de techniciens allemands ne pouvaient pas passer inaperçus. Et puis, il fallait alimenter les chaînes de production des poisons. et donc importer des quantités considérables de produits chimiques pour les fabriquer. Et
puis des produits dont le commerce devait être commerce international devait être très surveillé.
Ah, naturellement. Et bien, malgré tout, les Irakiens ont réussi à vaincre tous les obstacles et à persuader plus de 200 entreprises occidentales de leur livrer ces substances chimiques.
En trichant.
Bien entendu. Et avec la complicité de certains États, il ne pouvait pas en être autrement.
Saddam Hussein a donc pu se constituer un énorme arsenal.
Oui, oui, des milliers de tonnes de gaz mortel. Et comme pour le dictateur irakien, ces armes n'étaient pas seulement destinées à être stockées, il est passé à l'action.
Ouais. Alors quand pour la première fois là ?
La première utilisation massive a eu lieu au début 1984. Grâce à une attaque surprise, les Iraniens venaient de se rendre maîtres de deux îles particulièrement stratégiques au nord de Bassora, c'est-à-dire dans une zone très riche en pétrole. Les Irakiens ont d'abord riposté avec des armes classiques, mais n'ont pas réussi à reprendre les îles. Alors, Saddam Hussein a décidé l'emploi de l'arme chimique.
C'est-à-dire d'obus chargés d'armes chimiques ?
Non. Pour cette première expérimentation massive, ce sont des hélicoptères qui ont déversé sur les lignes ennemies des gaz liquéfiés. Les effets ont été terrifiants. Et cela a encouragé le commandement irakien à utiliser à nouveau les gaz sur d'autres secteurs du front. Alors même que le secrétaire d'État adjoint américain Richard Murphy, en visite à Bagdad, venait négocier le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays.
Et Murphy, là, il a été mis au courant ?
Ah, rapidement, car les Iraniens n'ont pas tardé à dénoncer cette violation de la Convention de Genève.
Alors, résultat ?
Murphy a protesté énergiquement, en vain, car les Irakiens ont exercé une sorte de chantage. Si vous ne nous soutenez pas, nous nous tournons du côté de l'URSS. Et c'est ainsi que, malgré l'utilisation des gaz par Saddam Hussein, les relations diplomatiques entre l'Irak et les États-Unis ont été rétablies quelques mois plus tard. Et il s'est même trouvé un universitaire états-unien pour estimer que les armes chimiques étaient essentiellement destinées à briser le moral de l'ennemi.
Alors, si elles tuaient, c'est en surplus, quoi.
Ah ben voilà. D'ailleurs, plusieurs spécialistes militaires avaient observé que le rendement de ces armes était assez peu satisfaisant. Elles ne tuaient que 20% des soldats ennemis.
C'est horrible, ce mot rendement.
Mais c'est réaliste. Que voulez-vous ? Et les Irakiens ne vont pas tarder à prendre en compte ce diagnostic. En 1985, bombardant des centaines de villages iraniens, ils ont perfectionné leurs obus chimiques et y ont ajouté de l'acide cyanhydrique.
C'est le gaz des nazis, ça.
Et toujours fabriqué par une firme allemande.
Et l'opinion internationale, alors, elle ne réagit pas ?
Très peu. Et pourtant, les preuves sont accablantes. Mais si j'ose dire, Saddam Hussein jouit d'une sorte d'impunité.
Oui, parce qu'il combat l'Iran.
Exactement. L'Iran qui prône un islam radical et qui a déclaré une guerre larvée à l'Occident. Attentats, prise d'otages, etc. L'Iran n'est donc guère populaire et c'est un État qui inquiète.
Ouais, c'est le risque de contagion islamiste.
Et incontestablement, Saddam Hussein en profite de façon cynique. Pour l'opinion occidentale, l'Irak laïque demeure un rempart contre l'obscurantisme des islamistes.
Et par conséquent, bon, on ne veut pas savoir.
Et on accorde foi aux mensonges des Saddam Hussein. Lorsque les Iraniens présentent publiquement des victimes des gaz irakiens, Bagdad prétend que ces gens ont été blessés chez eux lors de l'explosion d'une usine chimique.
Et ça marche ?
Tout à fait. Entre Khomeini et Saddam Hussein, l'opinion a choisi. Mieux, grâce à sa collaboration avec des firmes néerlandaises et allemandes, l'Irak a même accéléré sa production de gaz mortel. Et quand soumis à des pressions des États-Unis, le gouvernement fédéral allemand s'est décidé à limiter et même arrêter les exportations de produits chimiques sensibles, une des sociétés mises en cause, cette Karl Kolb, dont je vous ai parlé, a attaqué en justice. Et elle a gagné.
Alors, la plus limite pour les exportations.
Et la production a encore augmenté. Il faut aussi souligner que lorsqu'un gouvernement européen essayait d'entraver ce commerce, il faisait l'objet de menaces très claires.
Menaces de quel ordre ?
Des menaces commerciales. Il ne faut pas oublier que grâce à son pétrole, l'Irak était riche et avait la réputation de payer rubis sur l'ongle.
Un excellent client qu'il ne fallait pas fâcher, quoi. Alors, pour résumer, la communauté internationale savait que Saddam Hussein violait les lois de la guerre en utilisant des gaz, mais personne ne lui en disait grief pour des raisons politiques et commerciales.
Et telle est la vérité. Et le dictateur irakien va bientôt franchir une nouvelle étape en employant cette arme terrifiante contre son propre peuple.
Mon journaliste Jonathan Randall a contribué à la rédaction du livre noir de Saddam Hussein avec un article sur ce qu'il appelle les relations ambiguës entre les États-Unis et l'Irak. J'en extrais ces quelques lignes qui traitent d'abord du déclenchement de la guerre Iran-Irak. Washington se mit alors à considérer la survie de l'Irak comme essentielle, au point de fermer les yeux sur le triste record de Saddam Hussein concernant le nombre de violations des droits de l'homme. Fut aussi ignoré son utilisation de l'arme chimique et biologique contre les troupes iraniennes et les Kurdes. Voulant délibérément faire montre de bonne volonté, le président Ronald Reagan envoya son émissaire personnel, Donald Rumsfeld, serrer la main de Saddam en décembre 1983. Il ne reste pas moins que les États-Unis furent lents à rejoindre les pays qui soutenaient ouvertement l'Irak, la France, le monde arabe, à l'exception notable de la Syrie, et l'Union soviétique. La France fournit des missiles Exocet Hermer, des Mirage F1 et surtout des avions super-étendards pour bombarder les pétroliers iraniens dans l'espoir de forcer Khomeini à mettre fin à sa guerre sainte. Les Arabes donnèrent des dizaines de milliards de dollars qui permirent à Bagdad d'acheter encore plus d'armes et de fournir aux Irakiens la nourriture, les voitures et les produits d'importation destinés à empêcher que le mécontentement de l'arrière ne se retournât contre Saddam et contre la guerre qu'il n'arrivait pas à gagner. Car ce fut bien là l'un des paradoxes les plus étranges de la guerre froide. Les États-Unis et leur ennemi juré, l'Union soviétique, se retrouvèrent du même côté, déterminés à empêcher la propagation de la révolution iranienne.
Le nom de code de l'opération était Anfal.
Ce que veut dire ça?
Bah, écoutez, je crois que c'est un verset arabe tiré du Coran et qui signifie butin arraché aux infidèles.
Ah oui. Alors cette opération Anfal.
Bah, il s'agissait d'en finir avec la question kurde. Et quand je dis finir, je pèse mes mots, car Saddam Hussein voulait régler une fois pour toutes le problème en anéantissant les Kurdes irakiens qui ne cessaient de réclamer leur indépendance ou plus ou moins leur autonomie.
Et qui combattaient depuis longtemps les Irakiens, les armes à la main.
Hein. Une guérilla, oui. Ou plutôt deux, car les Kurdes étaient divisés.
En tout cas, bon, si je vous ai compris, Saddam Hussein voulait procéder quoi, à un véritable génocide.
La solution finale, oui. Et Saddam Hussein a confié la conception et la réalisation de l'opération Anfal à l'un de ses parents, Ali Hassan al-Majid, plus connu désormais sous le nom d'Ali al-Chimik.
Ouais. C'est un général qui a été déclaré mort l'an dernier, je crois. Et qui a finalement été capturé vivant par les Américains.
C'était en effet le cinquième dirigeant irakien le plus recherché. Anfal commence en 1987 et va durer 2 ans. 2 ans au cours desquels entre 100 000 et 180 000 Kurdes vont périr. C'est pourquoi vous avez raison de parler de génocide. Al-Majid est donc nommé en 1987. Saddam Hussein lui donne tous les pouvoirs civils et militaires sur le nord de l'Irak, c'est-à-dire les régions où vivent les Kurdes.
Ouais, alors c'est une sorte de proconsul, quoi.
Chargé non seulement d'éradiquer les guérillas, mais aussi de se débarrasser du maximum de Kurdes. Et à peine nommé, il définit un certain nombre de zones interdites.
Interdites aux Kurdes.
Et l'armée reçoit l'ordre de tirer à vue sur toute personne se trouvant dans ces zones, surtout les hommes, bien entendu.
Ouais, parce qu'ils peuvent être d'éventuels combattants.
L'armée est aussi chargée de bombarder aveuglément les localités se trouvant dans ces zones. Et les ordres sont clairs. Il faut provoquer le plus possible de victimes kurdes. Et en même temps, les militaires procèdent à une première attaque au gaz sur 2 villages kurdes, provoquant alors la mort de dizaines de personnes, surtout des femmes et des enfants. Assez cyniquement, ces 2 premières expériences ont été filmées.
Pourquoi là pour eux? Pour évaluer le rendement de ces attaques, comme vous disiez tout à l'heure?
Alors, je ne faisais que reprendre le jargon militaire, mais enfin bref. Ces enregistrements ont été retrouvés, et s'ils sont projetés lors du procès de Saddam Hussein, il ne fait nul doute qu'ils pèseront très lourd dans le dossier de l'accusation. Quoi qu'il en soit, cette politique de terreur provoque l'exil de plusieurs dizaines de milliers de Kurdes vers l'Iran.
Chez l'ennemi, donc, hein?
Oui, un ennemi qui, pourtant, la guerre était tendre avec ses propres Kurdes, mais l'ennemi de mon ennemi est peut-être à l'occasion de mon ami.
Ouais.
Et l'Iran accueille les Kurdes irakiens. Certains gazés seront même soignés en Iran, tandis que la politique d'épuration ethnique se poursuit dans le Kurdistan, avec son cortège d'horreur. Ce sont surtout les villages de montagne difficilement accessibles qui subissent les bombardements chimiques.
Et alors, quand la guerre Irak-Iran se termine en 1988...
En juillet, exactement. Et bien pour les Kurdes, c'est dramatique. Parce que les dirigeants irakiens ont désormais les mains libres, si vous me permettez cette expression.
Oui, parce qu'ils n'ont plus à combattre les Iraniens.
Et qui vont pouvoir se consacrer encore plus efficacement à la question kurde. Et ils considéreront en 1989 que le problème est réglé. Et de quelle façon? 4000 villages ont été détruits. Je vous l'ai dit, des dizaines de milliers de Kurdes ont été exterminés. Le terrible Halil Chimik peut être récompensé et appelé à d'autres fonctions. Mais je voudrais revenir sur un événement dramatique qui s'est déroulé quelques mois avant la fin de la longue guerre Irak-Iran. En mars 88, très précisément, un des pires crimes que Saddam Hussein ait commis.
Un autre bombardement chimique, c'est ça?
Oui, celui de la localité d'Alabja, une petite ville qui se trouve pas très loin de la frontière iranienne. Au moment des faits, elle comptait une soixantaine de milliers d'habitants, car beaucoup de Kurdes des campagnes alentour étaient venus s'y réfugier. Alabja, connue autrefois pour sa douceur de vivre, avait déjà plusieurs fois eu affaire aux exactions de la soldatesque irakienne. Elle avait aussi, pour son malheur, le fait d'être proche, trop proche de la frontière et donc de la ligne de front entre les deux armées.
Dans le cœur du brasier.
Et les deux camps se disputaient sa possession. À la fin de l'hiver 87-88, Alabja est assiégée par les troupes iraniennes qui contrôlent déjà les montagnes environnantes. Bon, je vous passe les détails, mais à l'occasion de la défection du commandant irakien, les Iraniens accompagnés par des centaines de peshmergas...
C'est-à-dire des guerriers kurdes.
Oui, donc ces forces s'emparent de l'Abja. Et les soldats irakiens qui s'enfuient subissent de sévères pertes. Mais le 16 mars, c'est le drame. Des avions irakiens effectuent plusieurs raids de bombardement au-dessus de la ville. Mais il ne s'agit pas de bombes conventionnelles. Ce sont des bombes chimiques qui sont déversées sur l'Abja. Et des milliers de Kurdes meurent presque aussitôt, comme foudroyés. D'autres se précipitent dans des abris, mais ils sont rattrapés par les gaz toxiques.
Et parce que les gaz restent au niveau du sol.
Les seuls survivants sont ceux qui ont réussi à gagner à temps les hauteurs. Et notez bien que le martyr d'Alabja n'est pas terminé pour autant. Fin 1988, c'est-à-dire après la fin de la guerre, des tanks irakiens reviendront et des soldats dynamiteront systématiquement les maisons de la ville.
Et cela, malgré la réprobation internationale qui a suivi quand même ce gazage massif.
Oui, mais une réprobation qu'il faut nuancer. Les Scandinaves, les Canadiens ou les Australiens condamnent Saddam Hussein. Mais les grandes puissances qui commercent avec l'Irak sont beaucoup, beaucoup plus prudentes. Bon, ici, je ne veux pas faire d'anti-américanisme, car nous, Français, avons été les marchands d'armes les plus actifs en Irak. Mais il faut quand même remarquer que, tout juste quelques mois après la tuerie d'Alabja, le géant états-unien, Bechtel, a signé un énorme contrat commercial avec un gendre de Saddam Hussein. Il y en avait pour $1 milliard.
Ah oui. Et Bechtel qui est avec Lee Burton, c'est ça?
Mm-hmm.
Un des meilleurs soutiens financiers des Républicains. Hein.
Donc très proche du clan Bush.
Ouais.
Mais encore plus grave. Alors que pour les observateurs et les témoins les plus sérieux, la culpabilité des Irakiens à l'Abja ne fait aucun doute. Il se développe en particulier aux États-Unis une campagne insidieuse qui vise à accuser l'Iran d'avoir bombardé à l'Abja avec des armes chimiques.
Ouais, une campagne négationniste.
Tout à fait. Et l'administration états-unienne n'a pas été innocente dans cette affaire. Que voulez-vous, Saddam Hussein était encore respectable.
Ouais, il ne le restera pas longtemps.
En effet, puisqu'il envahira le Koweït 2 ans plus tard. Autre chose tout aussi gravissime. Malgré les rapports d'experts mandatés à l'Abja par l'ONU, en août 1988, la sous-commission des droits de l'homme de l'organisation a estimé par 11 voix contre 8 qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'Irak. Toutefois, un sénateur états-unien sauve l'honneur de son pays en rédigeant un rapport terriblement accusateur et précis sur Saddam Hussein.
Avec quel résultat?
Bon, en dépit d'une approbation quasi unanime du Sénat, le rapport sera enterré par l'administration Reagan.
Mmh. Et en France, alors?
Bon, nous avons fait preuve d'une formidable hypocrisie.
C'est-à-dire?
Le gouvernement français s'est contenté de condamner l'utilisation des armes chimiques où que ce soit.
Donc sans accuser explicitement l'Irak.
Et quelques mois plus tard, à l'occasion d'une conférence tenue à Paris sur l'interdiction des armes chimiques, notre gouvernement s'engagera auprès du ministre irakien des Affaires étrangères, Tariq Aziz, à ne pas citer Bagdad dans le communiqué final.
Ouais. Ce qui est quand même bizarre, c'est que la France sera partie prenante de la coalition anti-Saddam Hussein lors de la première guerre du Golfe.
Hein. Et l'opération Tempête du Désert. Ouais. Mais vous le savez, les Kurdes n'en auront pas fini avec les exactions irakiennes, puisque justement, après cette première guerre du Golfe, les alliés laisseront Saddam Hussein massacrer les Kurdes au nord et les chiites au sud.
Ouais, jusqu'à ce que de grandes voix s'élèvent quand même. Hein.
Dont celle de Daniel Mitterrand et Bernard Kouchner qui iront sur place et dénonceront cette vague de terreur. Il en résultera la création par les alliés d'une zone d'exclusion aérienne, au nord, mais aussi au sud. Il faut aussi observer que les populations kurdes souffrent toujours des séquelles de ces bombardements chimiques massifs au cours desquels 100 000 munitions ont été tirées. Les sols, les eaux sont encore contaminés. Et cette contamination a engendré des maladies chroniques et des malformations de fœtus.
Encore aujourd'hui ?
Oui, encore aujourd'hui. Enfin, il reste un dernier point très important. Les Irakiens, je vous l'ai dit, ont fabriqué des quantités incroyables d'armes chimiques. Alors, que sont-elles devenues ? Et pourquoi ces armes de destruction massive qui ont justifié l'entrée en guerre des États-Unis et la deuxième guerre du Golfe sont-elles demeurées introuvables ? Mais, je vous l'ai promis, je vous propose d'aborder cette mystérieuse question lors de notre prochain entretien.
Rendez-vous est donc pris. Pour terminer, je vous propose un témoignage. Celui d'un jeune homme de Halabja, qui est aujourd'hui médecin. Son récit a été recueilli par Marie Jégot et publié dans un article du Monde paru en novembre 2002. En voici un extrait. Nous avions de la famille chez les combattants. Ils nous ont conseillé de fuir sans attendre les représailles de Bagdad. Nous avons donc pris le chemin de Bawa Kolchak, un village sur une colline proche de Halabja. De là, j'ai tout vu. Toute la matinée, les bombardiers irakiens ont pilonné la ville sans relâche. Les gens étaient dans des abris. Aux environs de 14 heures, les avions sont revenus, mais cette fois-ci, les bombes larguées des sortes de bidons ne faisaient aucun bruit. C'était étrange, aussi étrange que l'odeur qui s'est dégagée ce jour-là et les jours suivants. Une odeur de pommes et d'ail pourri. De loin, j'ai vu des animaux qui gisaient à terre, puis des gens qui sortaient des abris. Ils marchaient, puis tombaient, comme tombent les feuilles des arbres en automne. Plus tard, profitant d'une accalmie, la population a cherché à fuir vers les villages avoisinants. Mais à 20 heures, les avions sont revenus. Ils ont à nouveau largué des substances chimiques aux alentours sur les fuyards. Nous étions dans notre abri au village sur la colline. Nous avons mis des mouchoirs sur nos visages et nous avons attendu la mort.